Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halou Dmoundi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Les sujets qui ont marqué la semaine sont multiples et nous en avons retenu quatre pour le forum de la presse de ce vendredi. Il s'agit d'abord de la conférence de presse animée par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali, au cours de laquelle il demandait, je cite, au gouvernement malien de mettre fin à tout lien à la fois public et privé avec les Gatia. Le sujet qui va suivre est relatif à la situation alimentaire à Kidal, une situation dont on dit qu'elle est préoccupante. En troisième position, nous intéresserons à l'annonce faite par une partie du mouvement arabe de l'Azawad, MAA, d'adhérer, je cite, aux idéaux de la plateforme. Dernier sujet au menu de ce forum de la presse, le départ des quatre députés RPM qui rejoignent désormais les rangs de l'ADP Maliba, un parti membre de l'opposition depuis peu. C'est avec quatre journalistes que nous allons parler de tout cela, à savoir Fakara Fainke du Républicain, Boubacar Paintao de l'Indépendant, Paul Nguessan du Prétoire, et Idrissa Keïta de Raïda Info. Cette émission vous est présentée par Seydou Foma.
Le Grand Dialogue.
Bienvenue à toutes et à tous. Ce n'est pas tous les jours et même pas tous les mois que l'ambassadeur des États-Unis invite la presse. Elle a créé l'événement cette semaine en invitant leurs confrères pour parler de la situation sécuritaire au Mali. L'ambassadeur américain Paul Formsby a naturellement évoqué l'accord pour la paix. Il a dit en substance, le gouvernement du Mali doit assumer une plus grande responsabilité pour la mise en œuvre donc du processus de paix. Le gouvernement malien doit aller au-delà de l'adoption de lois et de la mise en place de commissions et se concentrer sur l'extension de son autorité sur l'ensemble du Mali. Le gouvernement malien doit également mettre fin à tous les liens à la fois publics et privés avec les Gatia, un groupe de milices armées qui ne contribue pas à ramener la paix dans le nord du Mali. Fin de citation. Alors, les propos ont tout l'air d'un avertissement, non, Fakara Fainke?
Merci, M. Fomba. À ce que je sache, quand pratiquement j'ai entendu que l'ambassadeur des États-Unis a dit ses propos, je me suis dit que est-ce que c'est une réalité? Alors j'ai cherché à voir, à connaître réellement le contenu du propos.
Alors vous dites, vous vous demandez si c'est une réalité parce que ces propos vous surprennent énormément ou
quoi? Effectivement, ces propos m'ont surpris. Il faut dire la réalité. Mais quand j'ai fait des investigations, on m'a dit que pratiquement ce n'était pas les propos de l'ambassadeur des États-Unis en disant que c'est le Gatia qui est à la base de tout ce qui se passe au nord. Mais seulement que l'ambassadeur aurait dit que alors, au gouvernement malien de s'éloigner vraiment du Gatia parce que ils estiment que le gouvernement est en train de soutenir le Gatia quelque part. Bon, effectivement, quand les gens du Gatia sont venus animer une conférence de presse, ils ont essayé vraiment de parler de ce côté. Bon, je me suis dit que les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des réseaux sociaux qu'il ne faut pas prendre comme de l'argent comptant. Moi, je dis qu'à propos de cette déclaration, pourquoi cette sortie de l'ambassadeur des États-Unis? On doit savoir ça. Quelles ont été les réactions du gouvernement malien?
Alors, vous avez posé la question, pourquoi cette sortie, vous avez une réponse?
Bon, moi, la réponse, quand même, il faut se dire que les États-Unis, ils sont au nord il y a longtemps. Ils ont leur service de renseignement. Ils savent beaucoup de choses qui se passent au nord. Bon, je me suis dit qu'il faut chercher à savoir ça. Quelle a été la réaction du gouvernement malien? Jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement malien n'a pas répondu.
Et nous allons revenir à vous dans un instant, Fakara Fainke. Merci. Maintenant, nous allons nous adresser à vous, Idrissa Keïta de Raïda Info. Quelle lecture vous faites de ces propos prononcés par l'ambassadeur des États-Unis au Mali?
Bonsoir. Je remercie le studio Tamani pour m'avoir invité. Je reste surpris et ébahi de cette sortie des États-Unis. Mais en réalité, je comprends que les États-Unis mettent en avant un sujet qui anime les débats depuis des semaines, notamment celui du général Gamon. Car la semaine passée, on a vu la polémique qui a suivi concernant le Gatia quant à l'appartenance du général Gamon. Et sachant que le Gatia est une milice quasiment communautaire, celle même de l'ethnie du général Gamon, qui est aussi un haut gradé de l'armée malienne, il va de soi que cette situation, qui quand même a été démentie par le Gatia lui-même, fait les choux gras des États-Unis, et notamment venant d'un partenaire comme les États-Unis, c'est quelque chose de très scandaleux.
Paul Nguessan.
Ok, merci bien. Moi, je pense que la déclaration de l'ambassadeur ne doit pas choquer. Parce que moi, je pense que c'est... Je suis d'accord que l'ambassadeur est irrationnel, parce que le Gatia, c'est une milice. Un État se fonde dans une milice. Moi, j'ai dit non. C'est vrai que le Gatia, on dit, ils sont pro-maliens, ils défendent la République du Mali. Mais si l'État veut qu'on va vraiment au processus de paix, on ne doit pas traiter le Gatia comme les autres. La CEMA, le Gatia, c'est une guerre. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde sur le terrain, qu'est-ce qui se passe ? C'est le Gatia et la CEMA qui sont en train de s'affronter, qui sapent les efforts de l'accord de paix que nous avons signé en Algérie. Donc si l'ambassadeur américain tire la sonnette d'alarme à l'État malien, de voir les enjeux, les pistes et moyens à tirer pour que puissions vraiment mettre ce processus en paix. Parce que si les Américains disent, ils savent que quelque part, le Gatia, sûrement que le Gatia a peut-être un accompagnement des autorités maliennes qui sapent les efforts sur le terrain. Donc je pense que ce n'est pas une histoire de dire que non, ils sont contre le Mali, c'est de réfléchir, c'est d'analyser en profondeur cette déclaration pour qu'on puisse tirer vraiment la substance qui peut nous sauver à mettre le processus de paix sur les rails.
Wakar Payne-Tao, les inquiétudes des Américains sont-elles fondées?
Bon, maintenant, moi je n'appelle pas inquiétude, hein, parce que je crois que les États-Unis, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle parce que lorsqu'on a signé l'accord de paix, on a pris la communauté internationale comme garant de l'accord. Maintenant, quand on fait la caricature, maintenant, les États-Unis, c'est une composante de la communauté internationale. Maintenant, en tant que composante de la communauté internationale, je pense que cette composante, c'est-à-dire qu'à son mot à dire...
Même pas n'importe quelle composante. Quand
oui, non, mais oui, c'est-à-dire que les États-Unis sont dans leur rôle. Maintenant, si, c'est-à-dire que les États-Unis estiment qu'il y a des comportements ou encore des agissements qui entravent au processus de paix, maintenant, ils doivent réagir. Maintenant, par rapport à la mise en garde ou encore à l'exigence qu'on fait du gouvernement malien, c'est-à-dire à l'appartenance du Gatia du gouvernement malien, mais c'est tout à fait normal. Parce que tout simplement, depuis combien d'années, depuis combien de temps, on dit que bon, l'un des combattants ou encore des responsables du Gatia, c'est le général Gamon, qui est un haut gradé de l'armée malienne. Maintenant, depuis combien de temps sur les réseaux sociaux et dans le traitement de l'information dans nos différents articles, on cite le général Gamon comme étant un membre influent du Gatia, mais en aucun moment, en tout cas à ce que je sache, le gouvernement malien n'a fait un communiqué pour dire que nous, on n'a rien à voir avec lui. Même si c'est officiel, mais officieusement, c'est autre chose. C'est, toutes les nations le font. Maintenant, moi, je pense que la question qui fâche, c'est pourquoi les États-Unis s'impliquent dans nos problèmes. C'est un peu ça, c'est cette question maintenant, la réponse à cette question qui doit nous fâcher, mais pas contre les États-Unis. Peut-être, si on va en revenir, mais si vous voulez que je réponde à la question. Maintenant, de mon point de vue, parce que nous, même pour financer un projet de 10 millions, on a besoin de l'accompagnement des partenaires. Maintenant, si les partenaires viennent nous accompagner, c'est tout à fait normal qu'ils aient leur mot à dire quand ça ne va pas.
Voilà. Alors, cette question, à vous, Fakara Fainke, l'ambassadeur américain n'a pas épargné les groupes armés à ce sujet. Voilà ce qu'il disait. Tous les groupes armés au Mali, tous les groupes armés du Mali doivent être en conformité avec leurs obligations sous l'accord de paix. Le comportement belliciste continu des groupes armés rapproche encore plus le nord du Mali du combat ouvert. Il dit en plus, les représentants des groupes armés devraient également savoir que s'associer continuellement avec les acteurs terroristes, c'est courir le risque d'entraîner des sanctions internationales. Fin de citation. C'est un message qui sera entendu et par qui de droit, selon vous, Fakara Fahinke?
Bon, ce que j'ai dit, c'est que le Nord est très complexe. Je peux dire que j'ai été un des acteurs de la rébellion de 91, avoir géré cette situation. Je sais ce qui se passe au Nord. Et il y a beaucoup qui parlent du Nord, qui n'ont même pas dépassé Gao. Mais il n'y a pas d'endroit au Nord que moi je n'ai pas mis pied. Il y a une affaire de tribu. Le Nord même, j'ai l'habitude de rappeler à maître le professeur Berthet. J'ai dit que l'accord a été signé sans les vrais acteurs. Parce qu'au Nord, c'est très compliqué. Je peux vous citer quelques tribus. Il y a les Wilimidan, il y a les Daoussak, il y a les Ifogas, il y a les Kalansa, il y a les Imnan, il y a les Imrad, ainsi de suite. Donc c'est une affaire de tribus. C'est une guerre tribale. Et tant qu'on n'arrive pas à gérer ces tribus, on passe à côté. J'ai dit à Maître Berthet, le professeur Berthet, je l'ai dit que l'accord a été signé sans les vrais acteurs. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'autre jour, il y a les gens du Gadja qui ont dit que ce problème-là existe depuis 1990. Parce que vous savez que les Iforas qui constituent la minorité, ce sont eux qui commandent à Kidal. Et c'est pour cela que j'ai l'habitude de faire un article. Je dis que la rébellion a commencé à Kidal et la rébellion finira à Kidal. Les Ifogas, ils sont minoritaires, les Imrad, et ils sont les plus nombreux. Mais le partage du pouvoir politique, il n'y a pas de partage du pouvoir politique. C'est les Iforas qui détiennent l'arène politique et l'arène économique. Donc il y a à peu près une révolution qui est là, qu'il faut gérer. Et les Imnan, ils font partie vraiment de cette situation. Il y a les Imnan, il y a les Iforas. Et Gamou est un Imrad. Il fait partie des Imrads. Donc Gamou ne peut pas se dissocier vraiment de sa communauté. Il faut que les gens le chassent. Mm-hmm. Et la lutte est ça. C'est ça le problème. Tant qu'on n'arrive pas à trouver une solution à ça,
Nous avons en ligne quelqu'un qui veut faire une contribution. Gagné Kanté qui me signale Tekété, mais j'ai besoin de savoir de quel Tekété s'agit-il. Est-ce qu'il s'agit de Tekété, de l'association de... Voilà. Maintenant que c'est précis, M. Tekété, vous voulez réagir, alors vous avez la parole.
Ok, merci. Moi, je suis Tekété de la MDH, comme prévu. Voilà, ce n'est pas une grande réaction. Hein.
Allez-y.
Voilà. Oui, c'est-à-dire que je voulais très simplement rappeler que l'ambassade des États-Unis n'avait pas apposé sa signature sur l'accord.
Oui, on vous écoute.
Oui, je disais que l'ambassade des États-Unis... je disais que l'ambassade des États-Unis en son temps.
On vous écoute, M. Tekété.
Mais je suis en train de parler là.
Continuez alors.
Je disais que l'ambassade des États-Unis n'a pas apposé son signature sur les accords en son temps. Donc ça veut dire que sa position est très claire. Ce que je viens de dire, c'est pas que quelqu'un a dit que c'est une inquiétude. Ce n'est pas une inquiétude. Moi, pour moi, c'est une dénonciation.
Une dénonciation par rapport à une situation qui est peut-être inquiétante, non?
Voilà, exactement. C'est-à-dire, moi, je crois qu'il ne faut pas déplacer le problème. C'est pas ces inquiétudes. Il dénonce quelque chose. Il dénonce la présence du général Gamou qui se reconnaît appartenir à ce groupe Gatia au nom de son ethnie.
Monsieur Tekété, nous vous remercions donc pour cette contribution. Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani.
Idrissa Keïta de Raïda Info, vous avez suivi avec nous les propos tenus par l'ambassadeur des États-Unis, des propos qui s'adressent notamment aux groupes armés, les groupes armés qui sont eux aussi en fait avertis, en ce sens que on les menace de sanctions s'ils s'associent toujours à des groupes terroristes. Alors c'est vraiment important que les États-Unis disent cela directement aux groupes armés, non?
Bon, vous savez, des États-Unis à l'Algérie, je dirais même la France, toute la communauté internationale est à blâmer.
Pourquoi ?
L'accord de paix qui a été signé il y a plus d'un an, d'ailleurs qui a été signé deux fois, puisqu'il y a une première signature et une seconde qu'on a appelée le fait de paraphraser, je crois.
Paraphé, peut-être.
Paraphé, autant pour moi. Le paraferment, entre guillemets. Cette situation, lorsqu'elle se faisait, les signataires ont été très clairs. Quiconque, à partir de cette signature, foulera au pied ce qui a été conclu sera sanctionné. En plus d'un an, aucune sanction. En plus d'un an, les groupes d'alors signature à ce jour se sont multipliés. En plus d'un an, Kidal n'est quasiment plus Mali. Donc c'est pour vous dire que c'est dès la base. Je suis d'accord que l'accord de paix, lorsqu'il est signé, c'est pas une baguette magique, la paix ne va pas venir. Mais quand même, de façon quasi unanime, la société civile, les partis politiques, tout le monde reconnaît qu'il est obsolète, qu'il faut revoir la copie. Donc, je crois que quand les États-Unis disent qu'ils vont donner des menaces, alors qu'eux-mêmes font partie de cette communauté internationale qui a signé depuis plus d'un an, qui n'est pas allée dans le sens des sanctions, c'est un crime de lèse-majesté.
Paul Nguessan, cette menace aussi, on peut l'appeler ainsi, adressée aux groupes armés pour qu'ils se montrent un peu plus corrects par rapport, correct entre guillemets, par rapport à l'accord, c'est une démarche nouvelle par rapport à la position des États-Unis?
Moi, je pense que ce n'est pas une position nouvelle et puis il faudra que on regarde en face si les ONG des États-Unis demandent des sanctions contre des groupes armés. Ouais. Je pense que quel genre de sanctions, parce que là, on passe chaque fois des sanctions, mais on n'applique pas ces sanctions. Et puis, je pense qu'il faudra, qu'on sache quelque chose. Hein. Cette communauté internationale qu'on est en train d'incriminer là, ne va pas faire le travail. La communauté internationale ne fait qu'accompagner les autorités maliennes. Et c'est pour cela que moi j'ai dit que l'ambassadeur des États-Unis, moi je suis d'accord avec sa déclaration parce que il faudra que l'autorité, c'est-à-dire que l'État malien s'assume. Les autorités doivent s'assumer. L'accord qui a été signé à grand pompe, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour sa mise en application? Et du moment où est-ce que vous voulez qu'on mette en application et quelque part on dit que vous soutenez une milice? Une milice. Si vous soutenez une milice, c'est qui va donner aussi comme prétexte ou comme argument à l'adversaire en face pour dire non, c'est parce que l'État malien soutient tel ministre que nous aussi, nous ne sommes pas prêts. Donc, il y a tout cet enjeu qu'il faut voir. Je pense que les Américains font bien de tirer sur la sonnette d'alarme pour qu'on puisse vraiment savoir que s'il y a blocus, d'abord, c'est l'État malien. Parce que cette communauté internationale ne va pas venir dire, voilà, mettez, non, elle ne peut pas se substituer à l'autorité malienne. Je suis désolé. C'est l'État malien d'abord qui doit se mettre au devant et la communauté internationale doit l'accompagner. Donc moi, je pense que vraiment cette déclaration-là, pour moi, elle est la bienvenue, mais les sanctions, quel genre de sanctions concrètement on parle? Parce qu'on sait ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, le Nord est devenu une milice, une zone, un no man's land où c'est le trafic de drogue, tout prospère là-bas. Les gens se bagarrent parce qu'ils veulent contrôler des localités pour pouvoir mieux faire prospérer leur business. Donc, il y a vraiment beaucoup d'enjeux en cours. Il faudra vraiment qu'on puisse vraiment savoir ce qu'il y a lieu de faire pour qu'on puisse vraiment mettre cet accord-là sur les rails.
Wakar Painter de l'Indépendant, l'appel des Américains sera-t-il entendu par les groupes armés?
Bon, pas les groupes armés, parce que les groupes armés, ils sont dans leur schéma. C'est-à-dire que c'est une guerre de survie. Parce que c'est en fait ça le problème aussi. Parce que histoire Gacha, Sema, c'est des communautés qui vivent sur cette partie du pays et qui, en un moment donné ou à un autre, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de s'organiser pour, voilà. Pour y réagir un peu au propos de Paul, vous savez que le problème malien est très complexe parce que on a plusieurs fois dit, hein, c'est-à-dire que le gouvernement malien aujourd'hui, aucun partenaire du Mali ne peut dire voilà la position du Mali. C'est ce qui est écœurant. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'a pas une idée de ce qu'on veut faire de notre pays. C'est ce qui est écœurant. Parce que, c'est-à-dire que la communauté internationale, c'est la communauté internationale, ils ont leur schéma, ils ont c'est-à-dire qu'ils doivent créer, c'est-à-dire que de l'emploi pour leurs jeunes, ils doivent c'est-à-dire que soigner, ils doivent éduquer leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas le seul au monde. Les autres sont là, certes, pour nous accompagner. Il faudrait qu'en un moment donné, que nous disions, voilà notre position, voilà ce qu'on veut que le Mali soit. Et mais malheureusement, et nous, la position du Mali jusqu'à présent, elle est inconnue. Mm-hmm. Voilà. Maintenant, Chodo, par rapport à l'appartenance, c'est-à-dire qu'au Gatcha...
En deux mots.
Oui, en deux mots. C'est-à-dire que la déclaration des États-Unis, il ne faut pas que... Qu'on se fâche, qu'on dit non à cette situation, c'est très normal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas que ça à faire. Maintenant, le gouvernement doit s'assumer et doit faire une déclaration parce qu'on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement global où les autres sont là et il y a nous aussi. Maintenant, tout ce que nous faisons, on doit faire officiellement. Comme les autres le font, même si en dessous on fait autre chose.
Nous passons à présent au second sujet, la situation alimentaire à Kidal. Une situation qui, on dit en tout cas qu'elle est vraiment préoccupante sur place. Les prix des produits de première nécessité ont grimpé. C'est une situation qui s'expliquerait par l'aggravation du climat d'insécurité. C'est donc une crise qui vient se greffer à une autre. Est-ce qu'on peut rester indifférent à une situation aussi préoccupante de la part des différents acteurs impliqués dans le dossier Fakhar Fanké?
Merci. Je voulais revenir pour donner deux mots.
Juste deux mots.
Il faut donner un nouveau rôle à l'accord. On doit se demander est-ce que l'accord est encore applicable. D'où je rejoins un peu Païtao, d'où la nécessité des concertations.
Alors, donc cela est compris. Nous passons maintenant à la situation.
La situation de Kidal. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a beaucoup qui parlent de cette situation. Ils n'ont pas vécu à Kidal. J'ai eu la chance d'aller là-bas à plusieurs reprises avec la rébellion de 91. Vous savez que tout ce que Kidal consomme, tout vient de l'Algérie. Et aujourd'hui, il y a les groupes armés qui se sont positionnés par rapport, c'est-à-dire aux routes. Et tout le monde a occupé. Par exemple, quand tu quittes Gao, tu viens à Tabankor. Tabankor, c'est un endroit très important, Anéfis. C'est une zone très importante également. Mmh. Et ce qui fait que pratiquement l'Algérie, Kidal est entre l'Algérie et puis la Mauritanie. Et avec quand ces deux routes sont occupées, quand les zones sont occupées par les bandes armées, vous n'êtes pas sans savoir que l'acheminement des vivres maintenant va poser problème. C'est pour cela que Kidal, la situation alimentaire qui prévaut à Kidal aujourd'hui ne doit pas, c'est-à-dire surprendre les gens. Tout ce qui vient de Kidal, tout ce qui est consommé à Kidal vient de l'Algérie. Et les routes, les issues, tous les issues quand même sont occupées par les bandes armées.
Alors Idrissa Keïta Fakhara Trouké, c'est une situation qui ne doit pas surprendre, mais c'est une situation qui doit quand même préoccuper, on doit s'en soucier.
Je dirais simplement les mêmes causes produisent les mêmes effets. La crise a éclaté depuis 2012. Nous sommes quand même en 2016, pratiquement même en fin 2016. Et à ce jour, cette guerre fratricide au niveau de Kidal, le schéma que nous avons indique que Kidal même est sous blocus. J'ai dit auparavant que Kidal n'est plus malien, échappe au contrôle de l'État malien. Mon collègue Yapingessa a dit c'est un no man's land. Donc, comme Païtao aussi l'a dit, c'est la survie. Donc, ne soyons pas étonnés qu'une cité où l'État n'a pas un œil sur les affaires internes locales, où au jour le jour, on ne fait que s'entre-déchirer, qu'il n'y ait pas de crise alimentaire. Encore que nous parlons de crise alimentaire, on ne parle pas d'hygiène publique, d'autres situations. Donc pour moi, vraiment, la situation à Kidal est devenue préoccupante. L'enlisement de cette situation que je déplore et que beaucoup au sein de l'opinion aussi déplorent a quand même a permis de comprendre que finalement cette guerre en tant que telle n'est pas que politico-sécuritaire, mais il y a le facteur ethnique à prendre en compte. Et Fainke a déjà situé le rapport de force, qui est majoritaire, qui ne l'est pas. Mais je pense qu'il faudra vraiment avoir beaucoup de tact pour pouvoir gérer cette situation. Car en réalité, un État ne doit jamais sous-traiter sa sécurité avec une milice. Sinon, cette milice finit par se retourner contre l'État en ayant son propre agenda, qui est souvent caché.
Paul Nguessan.
Situation sécurité alimentaire à Kidal, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, du moins, ce que les groupes armés pullulent comme les petits pains qu'on a sur le marché. C'est pas étonnant parce qu'aujourd'hui, ces groupes armés qui sont à Kidal, chacun a son calendrier, son agenda personnel. Pour preuve, les gens qui disent qu'ils sont là pour défendre la cause des Kidalois, au contraire, c'est eux qui sont en train de faire matérialiser cette population. Mais je pense que cette population de Kidal aussi doit vraiment prendre conscience que. C'est vrai, on suppose en d'ailleurs le 22 septembre qui a été célébré à Fasba, presque sur tout le territoire, Kidal a renoncé, comme si déjà, comme le disait Keïta, ils se sont retirés du Mali. Mais si vous retirez du Mali, vous devez assumer votre sécurité alimentaire. Je pense que ça, si on soit honnête, c'est vrai, on crie Kidal est Mali, mais voilà que eux, carrément, ils disent qu'on sent même qu'ils ne sont plus maliens, parce que quand ils ne célèbrent pas l'indépendance, quand l'autorité de l'État n'y est pas pendant un bon moment, quand des gens, ont créé des groupes de comités de gestion, on gère par rapport à des clans ou bien à des familles, aujourd'hui, vous pensez que l'État malien va rester à chaque fois pour dire ouais, que quand il y a un problème, on crie, non, sauvez-nous parce qu'on va venir, et nous, on vous envoie des sous chaque fois, vous détournez bien les vies, vous posez des mines sur les routes. Mais justement, c'est normal qu'il y ait la sécurité alimentaire. Donc, cette souffrance-là, c'est vrai, ça interpelle, ça fait mal, parce que c'est des populations qui vivent, c'est des hommes qui y vivent. Mais on ne peut pas continuer chaque fois à les laisser de faire des bébés gâtés. Nous, au sud aussi, au Mali, nous avons des problèmes de sécurité alimentaire. Pour la région de Kaya est confrontée à cela. Même si Kasso, qui est le grenier, est confronté à la sécurité alimentaire. Donc, il y a un problème de sécurité. Il faudra que ces groupes armés reviennent à la raison pour que ce problème-là puisse trouver une suite. Tant que ce ne sera pas cela, on doit vivre cela et c'est dommage.
Bon, situation préoccupante. C'est vrai, c'est une situation préoccupante parce que quand on imagine un peu que son semblable de l'autre côté meurt de faim ou a soif, c'est préoccupant. Maintenant, moi j'ai une autre analyse de tout ça. C'est-à-dire que il faut qu'on sache que personne, nul ne peut se substituer à l'État. C'est-à-dire que les groupes armés aujourd'hui qui pullulent cette partie du territoire malien, en fait, bon, à part le maniement des armes, ils ne savent rien faire. C'est-à-dire que les services sociaux de base, ce n'est pas leur problème. L'école, ce n'est pas leur problème. C'est-à-dire que le fait de manger, de ne pas manger, ce n'est pas leur problème. C'est-à-dire que c'est tout ça qui font que l'État... Parce que l'État est un peu regardant sur tous ces facteurs-là. Donc, personne ne peut se substituer à l'État. Aujourd'hui, les groupes armés, ils ont des armes, ils peuvent tirer sur ceux qu'ils veulent, mais en réalité, ces services-là, ils ne peuvent pas les assurer. Maintenant, il faut que la mise en œuvre rapide, le retour rapide de la paix, c'est-à-dire que ça doit interpeller tout le monde. Que la population de suite... aussi bien la population de Kidal. Parce que cette situation, elle est préoccupante. Parce qu'aujourd'hui, voilà, ils ont faim, ils crient. Mais, parce que, c'est ce que les groupes armés nous ont dit, hein, maintenant, il faut laisser l'État, nous, on va s'en charger. Mais en fait, il ne peut pas. Voilà. C'est cette analyse que moi, j'ai faite de cette situation. Voilà. Malgré que ce soit préoccupant.
On se retrouve dans un instant pour la suite de ce débat.
Action.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Troisième sujet, le MMA a fait parler de lui cette semaine. Cet responsable du mouvement arabe de l'Azawad était face à la presse. Selon eux, plus rien ne devrait justifier les affrontements meurtriers entre groupes armés après la signature de l'accord pour la paix. Ils disent, je cite, ne plus vouloir s'embarquer dans des aventures guerrières injustifiées ou pour des raisons inavouées. Fin de citation. Alors, les conférenciers ont annoncé qu'ils adhèrent désormais aux idéaux de la plateforme. Ils promettent de tout mettre en œuvre en collaboration avec, je cite, les frères de la plateforme pour privilégier les combats pour la paix et le développement. C'est une nouvelle donne qui vaut certainement ce qu'elle vaut, Fakara Fahinke, deux minutes.
Merci. Et Fomba, c'est pour cela que je dis que, est-ce que l'accord est encore applicable? C'est en cherchant le rôle de cet accord qu'on peut savoir la cause de la défection du MAA, parce que c'est la réponse à toutes ces questions qu'on peut expliquer la recomposition et les causes de cette recomposition. C'est pour ça que j'ai dit que la donne a changé. Il y a certains qui parlaient de l'autodétermination. Il y a certains quand même qui se sont démarqués de ça. Donc, pratiquement, les choses ont changé. La donne a changé. Et quand la donne change, il faut donner, c'est-à-dire un nouveau contenu à cet accord-là. Et c'est là où chaque groupe est en train de jouer sa partition. Chacun veut jouer sa partition. Ce qui était dans la rébellion, j'ai vu ces gens-là en train de réapparaître et avec leurs hommes. Et ceux qui sont sur le terrain, eux aussi, ils ont une philosophie. Maintenant, je dis qu'il faut chercher à donner un autre contenu à l'accord, sans quoi nous allons rester dans cette situation. Parce que maintenant, il y a une recomposition, c'est-à-dire de la situation sur le terrain.
Mmh. Idrissa Keïta.
Bon, d'une part, on peut dire que c'est une bonne chose, parce que ils sont plus ou moins revenus à la raison. Mais est-ce que le Gatia était le vis-à-vis édiqué? La question mérite d'être posée. Mais vous savez...
Excusez, ils auraient pu aller d'un autre côté lesquels? C'est ce que vous voulez dire?
Pas forcément. Simplement déposer peut-être les armes et carrément prendre langue avec l'État malien. Mm-hmm. C'est aussi envisageable. Mais il faut faire beaucoup attention pour ce qui est de la crise au Nord. Car les positionnements, ça et là, ce sont des jeux d'intérêt. Et si le MAA, avec les prises de position qu'ils ont eu à faire, qu'ils ont eu à entreprendre de leur création jusqu'à ce changement de camp, arrive, c'est qu'il y a anguille sous roche. Car l'expérience montre qu'il pourrait même y avoir aussi des éléments du Gatia qui peuvent aller de l'autre côté. Donc moi je retiens que ils ont changé de camp, certes. C'est vrai qu'on dit que le Gatia est pro-Mali, est proche, défend les idéaux de la République. Mais reste que c'est toujours entre milices. Et entre milices, ce sont les jeux d'intérêt qui prévalent. Et peut-être que même les raisons même cachées sont à travers les explications que nous avons eu à donner depuis le début de cette émission. Puisque nous avons évoqué tous les paramètres de la crise à Kidal, et je ne serais pas surpris que les raisons cachées de ce revirement se trouvent dans les réponses et analyses que moi et mes confrères sommes en train de faire ici.
Alors, Paul Guessant, des responsables du MMA qui disent qu'ils adhèrent aux idéaux de la plateforme, est-ce qu'il faut prendre cela comme un signe, le signe de quelque chose de positif?
C'est pas étonnant. On voit la plateforme. Pourquoi? Parce qu'en tout cas, la plateforme, quand on regarde un peu sur le processus de sortie des crises, en tout cas, la plateforme, quand même, c'est l'interlocuteur fiable par rapport à Maître Aruna Touré, quand même, qui arrive, qui est un homme qui convainc. Et aujourd'hui, quand le MAA met plus bagage pour aller à la plateforme, c'est pas étonnant. Le patate du gâteau a sonné. Il faudra trouver un interlocuteur, bien un protégé qui puisse vraiment mieux défendre des intérêts. Et je pense qu'ils ont trouvé qu'avec la plateforme, l'intérêt sera sûrement pris en compte. Donc c'est pas étonnant, mais le problème c'est pas d'aller à la plateforme pour faire des déclarations, pour juste pour faire des déclarations. Il faudrait être sincère et concret. Est-ce que ces gens, la MAA qui vont retrouver la plateforme, vont-ils accepter de, ils vont tout de suite accepter la vision d'idéologie de la plateforme qui est de défendre l'intégrité du territoire malien, et la souveraineté du Mali. Est-ce que réellement il y a cela, parce que il faudra attendre la suite pour voir réellement si ils sont prêts vraiment à adhérer aux idéaux de la plateforme pour pouvoir faire avancer le processus.
Wakar Pintao de l'Indépendant.
Bon, moi je pense tout simplement que c'est un jeu de positionnement. C'est un jeu de positionnement. Sinon, depuis combien d'années, c'est bon, dire que c'est aujourd'hui qu'ils ont compris, bon, ça me surprend. Parce que bon, ils ont tout le temps compris. Hein, mais seulement, bon, comme c'est cette crise-là, c'est des rapports de force aujourd'hui. Bon, ils se sont positionnés. Donc maintenant, bon, adhérer aux idéaux de la plateforme, est-ce que ça veut dire déposer les armes? Est-ce que ça veut dire continuer les conquêtes avec bon, point d'interrogation?
Oui, mais M. Pantao, ils disent bien que rien ne devrait justifier les affrontements meurtriers entre groupes armés.
Oui, mais bon, parce que c'est ce que j'ai dit au début de mon intervention, c'est que il y a ce qu'on appelle une question de survie hein, dans cette partie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de groupuscules qui s'engagent dans le combat, pas pour le simple plaisir de s'engager, mais c'est pour survivre. Hein. Voilà. Donc ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte. Maintenant, ce que j'aimerais juste ajouter, c'est que quand on regarde tout ça, je reviens également à un de mes propos où j'ai dit que nul ne peut se substituer à l'État. C'est-à-dire que l'enlisement de la crise fait qu'à un moment donné, on va lâcher. À un moment donné, on est obligé de lâcher. Voilà.
On va quand même préciser que par rapport à ce dossier, que côté Ber, dans la région de Tombouctou, il y a un autre son de cloche. Le MMA de la zone de Ber annonce rester et demeurer toujours membre de la CMA. Nous passons au quatrième sujet à présent. Quatrième et dernier sujet, quatre députés RPM qui décident de rejoindre un parti de l'opposition Ishaï de l'ADP Madiba qui a récemment quitté la majorité présidentielle. Les raisons avancées par les intéressés sont les suivantes: la mauvaise gouvernance, l'absence de débat au sein du parti et les promesses faites lors de la campagne électorale attendent toujours. Donc on reproche là aussi une certaine lenteur. En tout cas, ce que disent les quatre élus, c'est une alerte qu'il ne faut peut-être pas négliger. Qu'est-ce que vous en pensez, Fakara Fanke?
Bon, effectivement, j'ai vu que nous-mêmes on a traité ce sujet. Ça ne doit pas surprendre les gens. En tout cas, parmi ces députés, je suis en commune 3, je connais un peu le professeur Kalilou Ouattara. Je sais que c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans la poche. Et j'ai suivi un peu ses interventions à travers la radio Fréquence 3. Il a toujours pris les gens à contre-pied parce qu'on ne peut pas comprendre que celui qui est de la majorité, lui-même, il critique les actions de la majorité. Dès lors que l'ADP Maliba, qui était avec le président de la République, claque la porte et que Kalilou Ouattara les rejoigne, vous savez bien qu'il n'a pas toujours partagé les mêmes choses que ses confrères députés de la majorité. Et à un moment donné, il a même été contesté, même hué un peu, quand il a dit à un moment donné que, je cite, qu'on doit aussi penser au Sud et que le Sud aussi doit former, c'est-à-dire un regroupement. Donc il a toujours surpris les gens. Quand on me dit que lui, il a quitté le RPM, alors ça ne va pas me surprendre. Là aussi, vous savez bien que le RPM aujourd'hui, il y a trop de problèmes dans ce parti où il y a une guerre de leadership et de positionnement dans ce parti.
Idrissa Keïta, le départ de ces quatre députés, ces quatre élus, est-ce que ça doit préoccuper le RPM?
À tous les niveaux, mais il faut cadrer les choses. À ce jour, l'ADP Maliba n'a pas encore fait sa conférence nationale. Donc, on ne peut pas dire s'il est de l'opposition.
Non, tout ce qui concerne, il n'est plus de la majorité présidentielle.
Voilà.
On rectifie.
Et ensuite, lorsque mon confrère Fainke dit que le professeur Ouattara critique la majorité, je pense que c'est normal quand on est dans une majorité, une vraie, il ne faut pas être que des bénis, oui, oui.
Ça veut dire que ce n'est pas forcément l'unisson qui est recommandé.
Oui, à certains moments, il faut dire ce qui ne va pas. Mais malheureusement, dans ce pays, quand on est dans une mouvance, lorsqu'elle commet des fautes, au lieu qu'on s'assume pour parfois dire « Ah, voilà, voilà, voilà », on se tait et c'est quelque part ce qui a donné cette force que l'opposition a dans la sphère médiatique et autres. Maintenant, le départ en lui-même. C'est vrai que le réveil est très brusque au niveau du RPM. Toute la journée d'hier, les députés du RPM étaient en session extraordinaire à huis clos. J'ai pas pu arriver à l'Assemblée pour avoir des échos malheureusement. Mais il faut reconnaître que le RPM, qui nous a donné cette impression de tout rafler, est finalement tombé de son piédestal. Parce que ces députés qui sont partis, il y a quand même certains qui sont des membres fondateurs. Je rejoins Fonikao sur un point. Le professeur Kalilou Ouattara, il a eu à émettre une idée qui est à condamner, une idée sécessionniste. Mais est-ce réellement de sa faute quand on voit que le communautarisme s'est développé au fil des mois? Donc moi je dirais que c'est vraiment une claque pour le RPM qui est à la veille d'un congrès de tous les dangers. Mais ça indique aussi une chose. L'ADP Maliba, si l'on n'y tient garde, risque d'être l'arbitre. Un arbitre à un certain niveau de la sphère politique.
Alors, Paul Nguessan, est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ce départ pour le RPM?
Il y a beaucoup de leçons à tirer. D'abord, moi, je pense que, excusez-moi, si on veut consolider cette démocratie-là, il est temps maintenant qu'on puisse adopter une loi. J'avais même écrit un papier, un article là-dessus. Il faudra s'inspirer du cas béninois. Il est temps que ces députés qui sont élus sur les bannières d'un parti politique demain démissionnent, il est temps qu'on mette fin à cela.
Ça s'appelle le mercato politique.
Oui, mais ici, ils ont avancé des raisons.
Oui, même peu importe les raisons, parce qu'au Bénin, les Béninois ont démontré que quand tu quittes ton groupe parlementaire, c'est fini. Hein, tu ne peux plus, tu deviens non aligné, tu restes jusqu'à comme ça. Non, il est temps, parce que comment des députés, des élus, ils doivent être l'exemple d'une nation. Ils ne vont pas aller se pavaner, se vagabonder, excusez-moi du thème, au niveau de l'institution qui l'Assemblée nationale, ils ne donnent pas de bon exemple. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Je pense que le RPM doit vraiment s'asseoir et puis faire une autocritique. Aujourd'hui, on sent même quand tu vas à l'Assemblée, tu vois le comportement des députés du RPM, ça laisse à désirer. Parce que des gens que, imaginez-vous, lorsqu'on dit, on interpelle par exemple un ministre pour peut-être du groupe, il y a une motion de sanction de l'opposition, et tout que non, ça n'a pas sa raison d'être. Non, nous sommes dans un état où le débat a sa place, surtout dans un pays en crise. Et aujourd'hui, comme ils ont dit, moi j'ai écrit le papier où les gens sont partis parce qu'ils sentent qu'il y a un manque de débat au sein du RPM, et c'est normal. Et bon, aujourd'hui, ces gens sont dépassés. Donc, on a tiré une leçon.
Bon, moi je pense que la leçon qu'on peut tirer de tout ça, c'est que au sein même des amis du président de la République, ça ne va pas du tout. Parce que moi personnellement, ça ne me surprend pas. Et puis, il faut s'attendre à d'autres départs également. Parce que c'est quand on fait un petit rappel, en 2013, le parti RPM était presque un parti... voilà. Mais avec l'élection du président de la République, maintenant, il y a beaucoup de gens, beaucoup de cadres qui n'ont jamais fait la politique, qui pensaient que le président de la République incarnait ce changement, et ils ont adhéré au parti et ils se sont fait élire comme des députés RPM. Maintenant, quand ça ne va pas, ils vont quitter un à un. Maintenant, lorsque l'ADP a quitté, moi j'ai vu le titre d'un journal qui dit que les feuilles mortes sont tombées. Mais non, c'est-à-dire que la nuisance. Hein? C'est-à-dire que la nuisance, on ne doit jamais négliger la nuisance. Quand il y a un départ, c'est qu'il va y avoir un deuxième et un troisième. C'est-à-dire que le premier qui va quitter, lui, va donner la voix.
Voilà,
et les autres
sûr,
vont quitter.
Voilà, c'est cela que s'achève le forum de la presse de ce vendredi à la mise en onde. Il y avait Salim Diouara, régie vidéo, Gagné Kanté, réalisation Ousmane Diadjetouré. Nos invités étaient Fakara Fanké du Républicain, Boubacar Pintao de l'Indépendant, Paul Nguessan du Prétoire et du Sakita de Raida Info. À la présentation, il y avait Seydou Fomba. On se retrouve pour un autre forum dans une semaine. Bon week-end.
vais commencer par la faire
bien. Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Haloud Moundi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.